Chapitre 16. Un visiteur de minuit. Or, pendant tout ce temps-là, pendant que la tragicomédie de la vie se jouait dans ces trois villas de la banlieue, pendant que, sur une scène banale, amour et gaieté, et crainte, et lumière, et ombre, se succédaient si rapidement, pendant que ces trois familles réunies par un caprice du destin s'occupaient à modifier leur avenir réciproque et résolvaient, chacune à sa façon, les étranges et complexes problèmes de la vie humaine, il y avait des regards qui épiaient chaque incident de la pièce et qui évaluaient avec un ardent intérêt le mérite de tous les acteurs qui y avaient un rôle. De l'autre côté de la route, derrière les barreaux peints en vert, en arrière de la pelouse bien tondue, derrière les rideaux de leurs fenêtres encadrés de plantes grimpantes, se tenaient les vieilles demoiselles, Miss Berthe et Miss Monique Williams, qui assistaient comme d'une loge particulière à tout ce qui se jouait devant elles. L'intimité de plus en plus grande des trois familles, les fiançailles d'Harold Denver et de Clara Walker, celle de Charles Westmacott avec la sœur de Clara, la dangereuse fascination que la veuve exerçait sur le docteur, la conduite absurde des sœurs Walker et les ennuis que cela avait causés à leur père, étaient autant d'incidents dont pas un n'avait échappé à l'attention des deux vieilles filles. Berthe et la cadette avaient un sourire ou un soupir pour les amoureux. Quant à Monique, l'aînée, c'était en fronçant les sourcils ou haussant les épaules qu'elle considérait les parents. Chaque soir, elle causait de ce qu'elles avaient vu, et leur existence monotone, dépourvue d'événements, empruntait de la chaleur et de la couleur à celle de leurs voisins, ainsi qu'un mur nu reflète la flamme d'un phare. Mais le destin avait décidé qu'elle connaîtrait dans leurs dernières années une émotion intense, rien qu'une, grâce à un événement mémorable qui servirait à dater tous les événements futurs. La nuit même qui suivit les fêtes qu'on vient de rapporter, il vint à l'esprit de Monique Williams, qui s'agitait sur son oreiller sans pouvoir dormir, une idée qui la fit se redresser toute frémissante, toute haletante. « Berthe, dit-elle en secouant sa sœur par l'épaule, j'ai laissé la fenêtre de devant ouverte. » « Non, Monique, certainement non. » Berthe se dressa aussi et eut un frisson sympathique. « J'en suis sûre, vous vous rappelez que j'avais oublié d'arroser les pots de fleurs, alors j'ai ouvert la fenêtre. Jeanne m'a appelée à propos de la confiture et depuis, je ne suis pas retournée dans la chambre. « Grand Dieu, Monique, c'est grâce à la Providence que nous n'avons pas été assassinés dans nos lits. » La semaine dernière, on est entré par effraction dans une maison à Forest Hill. Descendons, nous allons la fermer. Je n'ose pas descendre seule, ma chère, mais si vous voulez venir avec moi, prenez vos pantoufles et votre robe de chambre. Inutile d'allumer une bougie. À présent, Berthe, descendons ensemble. Deux petites taches blanches indécises se mirent en marche dans l'obscurité. Les marches craquèrent. La porte gémit. Elles se trouvèrent à la fenêtre de la façade. Monique la ferma sans bruit et assujettit l'espagnolette. « Quel beau clair de lune » dit-elle en regardant au dehors. « On y voit aussi bien qu'en plein jour. Et quel calme, quelle tranquillité dans ces trois maisons de l'autre côté. Cela vous attriste de voir cet écriteau alloué au numéro 1. Je me demande si le numéro 2 ne regrettera pas leur départ. Pour mon compte, je me passerai fort bien de cette terrible femme du numéro 3 avec ses jupons courts et son serpent. Mais Berthe, regardez, regardez, regardez !» Sa voix s'était atténuée soudain en un murmure frémissant et elle montrait du doigt la maison des Westmacott. Sa sœur resta bouche béante dans son épouvante et s'agrippa de toute sa force au bras de Monique en regardant fixement dans la même direction. Il y avait de la lumière dans la pièce de devant, une faible lumière, telle qu'eût pu la produire la flamme vacillante d'une bougie ou d'une veilleuse. Le store était abaissé, mais laissait passer confusément la lueur. Au dehors, dans le jardin, sa silhouette nettement dessinée contre le carré de lumière, un homme était debout. Il tournait le dos à la route, les deux mains posées sur le bas de la fenêtre et le corps un peu penché, comme s'il cherchait à épier à travers le store. Il faisait si peu de bruit Il était d'une immobilité si complète que, malgré la clarté de la lune, il eût pu rester inaperçu sans la lumière dénonciatrice de derrière le store.
« Juste ciel !» dit Berthe haletante. « C'est un cambrioleur !»
Mais sa sœur serra les lèvres d'un air sévère et hocha la tête.
« Nous allons voir, » dit-elle tout bas. « Peut-être est-ce pire encore. »
Soudain, l'homme se redressa vivement et se mit à relever le store avec lenteur. Puis il mit un genou sur le bas de la fenêtre, regarda autour de lui pour s'assurer qu'il ne risquait rien, et enfin enjamba l'appui de la fenêtre et entra dans la chambre. Alors les deux femmes aux aguets virent d'où venait la lumière. Mistress Westmacott était là, debout, rigide comme une statue, au milieu de la pièce, tenant de la main droite un bougeoir allumé. Pendant un instant, elles purent apercevoir sa physionomie sévère et son col blanc. Puis le store retomba en place et les deux personnages disparurent de leur vue.
« Oh, cette terrible femme !» s'écria Monique. « Cette terrible femme ! Cette terrible femme ! Elle l'attendait ! Vous l'avez vue de vos propres yeux, Berthe, ma sœur !
Chut, chut, ma chère ! Écoutons !» dit sa compagne plus indulgente. Elles entr'ouvrirent un peu plus leurs fenêtres et guettèrent de derrière les rideaux. Pendant longtemps, tout resta silencieux dans la maison. La lumière était toujours immobile, comme si Mistress Westmacott continuait à se tenir dans la même attitude rigide, pendant que de temps à autre passait et repassait devant elle une ombre, ce qui prouvait que son visiteur nocturne allait et venait en face d'elle. Une fois, elles aperçurent distraitement le contour de l'homme. Il tendait les mains comme pour implorer, pour supplier. Puis, soudain, se fit entendre un bruit sourd, suivi d'un cri, d'une chute. Le bougeoir s'éteignit et une silhouette noire s'enfuit au clair de lune, traversa le jardin en courant et disparut à l'autre bout dans les massifs. Alors seulement, les deux vieilles dames comprirent que, pendant qu'elles étaient aux aguets, il s'était joué une tragédie.
« Au secours ! Au secours ! » crièrent-elles de leur voix grêle, d'abord avec crainte,
mais d'une voix qui prit une sonorité croissante au point que tout le désert retentit de leurs cris. Des lumières parurent à toutes les fenêtres d'en face. Des chaînes grincèrent, des barreaux furent enlevés. Des portes s'ouvrirent et nos amis accoururent au secours. Harold, avec une canne, l'amiral avec son épée, sa tête grise et ses pieds nus émergeant des deux bouts d'un long ulcère brun, enfin le docteur Walker, armé d'un tisonnier, tous accoururent au secours des Westmacott. La porte était déjà ouverte et la troupe envahit en désordre la chambre de devant. Charles Westmacott, pâle jusqu'aux lèvres, avait posé un genou sur le parquet et soutenait la tête de sa tante. Elle était étendue de tout son long dans son costume ordinaire, tenant encore dans sa main crispée le bougeoir éteint, ne présentant aucune marque, aucune blessure apparente, pâle, placide, inerte.
« Grâce à Dieu, vous voici, docteur !» dit Charles en levant la tête. « Dites-moi en quel état elle est et ce que je dois faire. »
Le docteur Walker s'agenouilla près d'elle, lui passa la main gauche sur la tête, tout en lui tâtant le pouls de la main droite. « Elle a reçu un coup terrible, dit-il, sans doute avec un instrument contondant. Voici l'endroit derrière l'oreille. Mais c'est une femme douée d'une force physique extraordinaire. Son pouls est fort et lent, il n'y a pas de coma. Je pense qu'elle est simplement étourdie et qu'elle ne court aucun danger.
Que Dieu en soit loué.
Il faut la mettre au lit, nous allons la transporter au premier étage. Puis j'enverrai mes deux filles auprès d'elle.
Mais qui a fait cela ?
« Quelques voleurs, dit Charles. Vous voyez, la fenêtre est ouverte. Elle a dû l'entendre. Alors elle sera descendue, car elle n'a jamais su ce que c'est que la crainte. Ah, si elle m'avait appelé !»«
Mais elle était habillée. » »«
Quelquefois, elle veille très tard. » »«
Oui, j'ai veillé très tard, dit une voix. »
Et regardez les assistants en clignotant à la lumière de la lampe.
« Un bandit est entré par la fenêtre et m'a frappé avec un coup de poing américain. Vous pourrez dire cela à la police quand elle viendra. Dites-lui aussi qu'il était de petite taille et gros. À présent, Charles, donnez-moi votre bras pour monter là-haut. » mais elle avait plus de courage que de force, car, comme elle se redressait en chancelant, elle eut le vertige et elle serait retombée de nouveau si son neveu ne l'avait reçue entre ses bras. On se mit à plusieurs pour la porter en haut. On l'étendit sur son lit et le docteur s'installa à son chevet pendant que Charles allait au poste de police et que les Denver montaient la garde pour assurer les vieilles filles terrifiées.